à Marseille, à Nîmes, à Paris. J'étais aumônier de la jeunesse au consistoire de Paris. Et actuellement, je suis sur deux communautés. Une communauté libérale à la rue Copernic et une communauté consistoriale ou affiliée au consistoire, les Ulysses, près d'Orsay, le plateau de Saclay. Voilà, donc j'ai répondu à demande en présentant donc un sujet, c'est-à-dire la construction de la citoyenneté, et j'ai voulu suivre un peu l'histoire du peuple juif et son rapport aux États, aux gouvernants. Ça touchera inévitablement des sujets contemporains, parce que c'est difficile de parler du peuple juif sans aujourd'hui regarder l'actualité, c'est comme ça. Et j'essaierai donc de présenter de façon la plus simple, objectif, sans rentrer dans des débats contemporains, comment le peuple juif a établi son lien avec les États, et donc comment l'identité citoyenne s'est construite. Alors, voilà, très bien. Alors, le texte de base, c'est la Bible hébraïque. Hein, la Bible hébraïque, pourquoi je dis la Bible hébraïque? Parce que c'est la Bible chrétienne, et la Bible, qui veut dire le livre, Biblos, est en fait une bibliothèque. La Bible est une bibliothèque. Il y a plusieurs livres. Mais on divise généralement en trois. La Torah, qui veut dire l'enseignement, qui représente le Pentateuque, cinq livres de Moïse. Nevi'im, prophète, c'est toute la partie historique du peuple d'Israël sur la terre de Canaan, devenue la terre d'Israël, qui aura plusieurs noms. Et aussi les oracles des grands prophètes, comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ou dix petits prophètes, petits par le nombre de chapitres, on appelle les douze petits prophètes. Et troisième partie, les Ketuvim, écrits, et qui rassemblent des textes, soit sur des récits autour d'une personne, d'une personnalité, des femmes, Esther, Ruth, ou des écrits de sagesse, comme les Proverbes, le livre de Job, ou la première liturgie d'Israël, le livre des Psaumes, et un récapitulatif, le livre des Chroniques. Plusieurs auteurs, plusieurs périodes, il y a des contradictions, parce que c'est des écoles différentes. Les spécialistes parlent des textes éloïstes, yavistes, deutéronomistes. Et quand on prend les initiales, TNK, on obtient un mot Tanakh. Tanakh, Tanakh, le re, comme en allemand. Et Tanakh, ça désigne la Bible hébraïque. C'est comme si, au lieu de dire RATP, on disait RAPT. Vous voyez? Moi, je prends la RAPT. Ou je prends le RER. Pour dire le RER, on dit je prends le RER. Vous voyez? Parce que l'hébreu a l'habitude de former des mots à partir des initiales. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat. Est-ce que tous les récits de la Bible sont historiques ou des histoires religieuses? C'est des questions intéressantes. Ça, c'est la foi de chacun. On peut y croire ou pas croire à ce qui est dit. Mais comme la Bible va être reprise de façon intégrale par le christianisme, et qu'on ne peut pas séparer quand même les récits de la Bible du Coran, il y a au moins 4 ou 5 milliards d'individus sur la planète qui se réfèrent à ces textes de référence. Adam, Abraham, Ibrahim, David, Daoud, voilà. Donc, comme c'est des textes fondateurs du rapport au monde, à la limite qu'il soit historique ou simplement religieux, ça structure la pensée de 4 milliards ou 5 milliards d'individus sur la planète. Donc, on ne peut pas remettre en cause ça. La vérité d'une religion, c'est son existence d'abord. Alors, je vous ai représenté ici un petit Sefer Torah, un petit rouleau de Torah qu'on sort à la synagogue, le Shabbat, et on lit chaque semaine quelques chapitres, quand il, chaque semaine, voilà, c'est écrit sur du parchemin, par un scribe, fait à la main. Alors, cette Bible, alors, on va avoir une référence, donc, peu importe si ce sont des récits historiques ou non, je ne vais pas heurter vos convictions, mais commence l'histoire d'Israël. En fait, l'histoire d'Israël commence avec un personnage qui s'appelle Abraham, ou Ibrahim, dans le Coran, c'est les racines, vous voyez, et il apparaît comme le fondateur d'un peuple après que les peuples soient nés à Babel. Au chapitre 10 de la Genèse, on nous dit que Noé a eu trois fils, Shem, Ham et Yafet, et ils ont engendré chacun des enfants, et au total on a 70 enfants. Donc le chiffre 70 va devenir un chiffre symbolique de l'universel, qu'on retrouvera aussi dans les évangiles. Et ensuite on nous raconte l'histoire de Babel, c'est au chapitre 11, on dit que les hommes ont construit une tour, ils voulaient monter jusqu'au ciel, et Dieu a éclaté la langue originelle en plusieurs langues, si bien que les hommes ne sont pas compris. On peut comprendre ici cette idée que le Dieu biblique, eh bien, dans le mouvement créationnel, crée toujours la différence. Bien que cette humanité parlait la même langue, avec la même culture, semble-t-il que le Dieu biblique, il préfère qu'il y ait la différence et que se joue le défi d'une fraternité dans les différences. Ce qui est beaucoup plus difficile que quand on a une seule manière d'être, qui en général traduisent plutôt des dictatures. C'est la dictature du même. Donc il y a 70 symboliquement nations qui vont naître, et une fois que ces 70 nations vont se répartir sur la surface de la Terre qu'on connaît à l'époque, c'est-à-dire en fait c'est le Proche-Orient, Moyen-Orient, et on va dire peut-être jusqu'aux côtes de l'Italie et de la Grèce, mais bien sûr on ne connaît pas l'Extrême-Orient, on ne connaît pas les Amériques, on ne connaît pas l'Australie, on ne connaît pas les calottes glaciaires. Donc quand on dit le monde à cette époque-là, c'est vraiment le proche Moyen-Orient, avec ses grandes cultures, l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, etc. Alors, dans la logique de l'écriture de du texte biblique, on nous dit qu'il y a une 71e nation qui va naître, après les 70, et dont le père est Abraham, et Dieu lui apparaît en disant « Je ferai de toi Goy Gadol, un grand peuple ». Souvent on pense que le mot Goy, ça veut dire un nom juif, alors que Goy, ça veut dire un peuple. Ce n'est pas un individu, c'est une collectivité, et tout le monde est Goy, en tant que peuple, même le peuple d'Israël est appelé Goy. Mais c'est au Moyen-Âge, quand on disait juif, ou ça juif, alors apparu le mot Goy, qui a donné Gouja aussi, voilà. Mais Goy, ça veut dire un peuple. Donc c'est-à-dire qu'Abraham est porteur d'un peuple. Et deuxièmement, quand on regarde au chapitre 12 de la Genèse, où Dieu dit à Abraham de partir de Mésopotamie, de Ur en Chaldée, la Mésopotamie, l'Irak, traverser l'Euphrate, pour aller vers la terre promise, voilà, vers la terre que je t'indiquerai. Et cette terre, elle s'appelle à ce moment-là Canaan. Bon, Canaan, en phénicien, en vieux hébreu, ça veut dire aussi marchand, un pays de marchands, voilà, c'est du commerce. Donc il y a ici un nomade qui va se déplacer. D'après les historiens, les Hébreux seraient des Abirous, c'est-à-dire des nomades qui vont se déplacer et s'installer dans cette terre. Et dans le texte biblique, on dit « Elles seront bénies par toi toutes les familles de la terre ». C'est-à-dire que c'est un peu curieux comme projet. C'est-à-dire que comme si un peuple allait apparaître, dont l'objectif ne c'est pas seulement de développer sa propre culture, sa propre langue, ses propres capacités, mais qui sera en lien avec les autres familles de la terre. Un peuple, qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? C'est une famille qui a grandi. C'est en hébreu, tous les peuples s'appellent du nom de l'ancêtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'article. On dit la France, on dit l'Angleterre, l'Amérique, on met toujours l'article. Mais on ne dit pas l'Israël, on dit Israël. Pourquoi on dit Israël ? Parce qu'en fait, Israël, c'est le nom de l'ancêtre. Jacob devenu Israël. Donc, vous pouvez avoir quelques pays qui n'ont pas d'article, Monaco par exemple, mais voilà, des principautés, pour en trouver d'autres, et mais dans la Torah, tous les peuples portent le nom de l'ancêtre. Parce qu'au départ, il y a un couple, ils ont des enfants, les enfants ont eu des enfants dans des enfants des enfants, après ça devient un clan, et après le clan, les tribus, et après ça devient un peuple. Donc, ici, curieusement, c'est étonnant, seront bénis par toi toutes les familles de la terre, comme si le projet de ce peuple, porté par Abraham, n'est pas un projet de repli sur le développement de sa propre culture, mais, étonnamment, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Alors la bénédiction, c'est quoi? C'est un surplus d'être, c'est un plus, comme si il s'agit, de façon idéale, de trouver une collaboration entre ce peuple et les familles de la terre qui se sont réparties à partir de Babel. Il n'y a pas une notion de prosélytisme dès le départ. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de convertir l'humanité à la foi d'Abraham. C'est pour ça que le judaïsme n'est pas prosélyte, comme on dit. Mais simplement, il y a quand même une espérance. Ça, on la verra surtout plus tard chez les prophètes universels, comme par exemple Isaïe, Isaïe chapitre 2, où il dit qu'à la fin, les peuples reconnaîtront Dieu à Jérusalem, ou à Al-Qods, comme on dit, vous voyez que c'est le même mot qu'en hébreu, et c'est-à-dire une reconnaissance universelle des peuples qui ne se convertissent pas au judaïsme, mais qui reconnaissent qu'il y a une source supérieure de vie qui justifie les différences humaines. Et puis surtout, ce sera le temps où les glaives seront transformés en socles de charrues. C'est-à-dire l'économie militaire devient une économie de partage et d'éducation des enfants. Alors au départ, on appelle les Hébreux. Les Hébreux, alors à Ivri, ça a plusieurs significations. Soit à Ivri, ça veut dire avoir, celui qui traverse, parce qu'il a traversé l'Euphrate, ou un ancêtre qui est nommé dans la descendance de Noé, qui s'appelle Aéver. Donc c'est un descendant de Éver, donc ça donnait un Hébreu. Les Hébreux, donc, ce sont des passants. Je passe l'histoire, Abraham, on va arriver à Jacob, troisième patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, et Jacob, il va avoir 12 fils. Ah oui, pardon.
Non, mais c'est ça vient du projecteur.
Ça vient du projecteur, voilà. Et 12 fils, bon, les 12 fils vont donner les 12 tribus d'Israël, voilà. Alors Israël, le mot Israël, ça veut dire lutteur de Dieu. Israël. Elle, c'est un nom théophore. Et Sar, Israël, Sar, c'est un prince. Et en hébreu moderne, ça peut aussi désigner un ministre. Et on passe à l'image suivante. On pourrait dire que le premier personnage biblique qui pose la question de la citoyenneté en dehors de sa famille, c'est Joseph. Alors Joseph, c'est un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils, je ne vais pas vous les nommer tous, voilà. Mais Joseph est, vous connaissez sans doute le récit de Joseph et ses frères, c'est-à-dire qu'il y a un conflit de fraternité. D'ailleurs, tout le livre de la Genèse, c'est un conflit de fraternité. Caïn tue Abel, ensuite il y a un problème entre Isaac et Ismaël, pas tellement entre Isaac et Ismaël parce qu'ils ne se parlent pas, parce qu'ils sont séparés quand Isaac est petit, mais un conflit de femmes entre Sarah et Agar. Donc il y a une séparation par rapport à Ismaël. Ensuite il y a aussi un conflit entre Jacob et Esaü, et aussi entre Joseph et ses frères. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a le risque de mort. Donc c'est la question du fratricide, elle est en filigrane dans toute la Bible. Comment on solutionne la question du fratricide? Comment on arrive à être frère et empêcher la violence? Vous voyez que c'est des questions d'actualité, même si je ne veux pas parler d'actualité. Comment on est frère? Ça veut dire on s'embrasse, on se réconcilie, plutôt que d'essayer de supprimer l'autre. Alors, en quoi Joseph est le premier citoyen à l'intérieur d'une autre matrice qui n'est pas la matrice hébraïque, mais qui est la matrice égyptienne? Eh bien, donc finalement, il n'est pas tué par ses frères, il est vendu comme esclave en Égypte, la grande civilisation, et il a un don, il interprète les rêves. Il n'est pas psychanalyste, mais il a le don d'interpréter les rêves, et de fil en aiguille, il arrive jusqu'à Pharaon, parce que Pharaon a des rêves qu'il ne sait pas interpréter, il rêve qu'il y avait des grosses vaches avalées par des vaches maigres qui restent toujours maigres, il a des beaux épis qui sont avalés par des séchés qui restent toujours desséchés, il ne comprend pas. Personne ne peut expliquer le rêve. On lui dit, il y en a en prison, il y a un certain Yosef, l'hébreu, qui interprète les rêves. Alors, bien. Et il va interpréter les rêves de Pharaon, qui veut dire, en fait, c'est Dieu, c'est Elohim, le Dieu, Elohim, El, Allah, même racine, toujours, c'est-à-dire la divinité, hein, eh bien, qui va interpréter, c'est pas moi, et il interprète les rêves, il dit c'est extraordinaire, non seulement il va interpréter, en plus il va donner des conseils, voilà comment il faut gérer une situation de crise, et le pharaon va le nommer vizir d'Égypte, et aura, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'habiller en égyptien, et va prendre l'apparence égyptienne. Il va se citoyenniser, si vous voulez, en tant qu'égyptien. D'abord, il s'appelle plus Yosef, il s'appelle Safnat Paner. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire Safnat Paner, mais c'est un mot, deux mots égyptiens qui pourraient signifier interprète de rêve. Il s'habille en égyptien, il parle la langue égyptienne, donc il apprend l'égyptien. Il se marie avec une égyptienne qui s'appelle Asnat, bah, Poutifera, fille de Poutifera, qui est un prêtre dans la prêtrise égyptienne. Donc vous voyez, la première réponse de la citoyenneté d'un hébreu qui se trouve dans une civilisation qui n'est pas hébraïque, c'est de devenir égyptien. Mais, à plusieurs reprises, il dit soit à Pharaon, soit à ses frères, même quand il se cache, parce qu'il ne veut pas tout de suite dire à ses frères qu'il est le frère rendu, et à la fin, il se révélera, et il dit, est à Elohim, à Niyare. Je crains Elohim, je crains Dieu. Manière de dire, je n'ai pas basculé dans l'idolâtrie égyptienne, c'est-à-dire je n'ai pris que l'apparence extérieure, je suis un bon citoyen égyptien, je gère la situation, mais je suis toujours un serviteur de Dieu. C'est là où il resterait profondément hébreu. Mais on pourrait dire Joseph est le premier juif de cour. Parce que il est auprès du pouvoir et il est un conseiller des rois. Et dans toute l'histoire juive, que ce soit en Orient, en Occident, il y a toujours eu des juifs qui étaient des conseillers, des rois, des empereurs, des sultans, dans n'importe quelle culture. Voilà, on demandait, même auprès de Isabelle la catholique aussi, il y avait Abravanel, qui a essayé d'empêcher l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, et jusqu'aujourd'hui, vous avez toujours un ministre qui est juif. Voilà. On continue. Et on arrive donc à l'esclavage, c'est-à-dire que Joseph va faire venir sa famille pour s'installer dans le pays d'Égypte, et il y a un nouveau pharaon qui va se lever. Les Hébreux, que maintenant on va appeler les Béné Israël, c'est-à-dire les fils, les enfants du patriarche Jacob devenu Israël, parce qu'il s'appelle Jacob et après, à un moment donné il va s'appeler Israël, donc on va appeler les Béné Israël, ou bien Am Béné Israël, le peuple des enfants d'Israël, de ce patriarche, troisième patriarche. Et alors là, on pourrait penser que cette intégration va se faire de façon paisible, jusqu'au moment où, comme dit Jacob et ensuite Joseph, jusqu'au moment où Dieu va vous dire retournez au pays juré Abraham, Isaac et Jacob, donc revenir à Canaan, jusque là vous attendez. Seulement, le problème, c'est que c'est une difficulté qui apparaît avec ce peuple, moi il se trouve que c'est ce peuple-là, peut-être ça aurait été un autre peuple, c'était la même chose, c'est que, aux yeux des Égyptiens, il est trop nombreux, et il pose problème. Alors le pharaon va décider un ethnocide. Alors c'est pas un génocide, un ethnocide. Un ethnocide, c'est supprimer l'identité sans forcément supprimer tout le monde. C'est quoi un ethnocide? C'est-à-dire, le pharaon dit, on va supprimer les garçons qui vont naître, et on va garder les filles. Alors comme dans les sociétés antiques, ce sont des patriarcats, alors l'identité est définie par le père. Vous savez qu'on dit souvent dans la tradition juive, c'est la mère qui définit l'identité juive. Mais avant, bibliquement parlant, si le père est hébreu, l'enfant est hébreu. Et ce n'est pas par la mère. Mais les rabbins, après la destruction du temple, pour des raisons religieuses, mais surtout sociales, etc., on dit, bon, ça passe par la mère. Et donc, en Égypte, ça passait par le père. On dit, on tue les garçons. Donc on les noie, d'abord on va les étrangler en demandant aux sages-femmes de les étrangler, voilà. je dans le livre, mais vous vous rappelez ce film de Cécile B. 2000, les 10 commandements, et comme les filles seront sans garçon, elles vont se marier avec des Égyptiens, et donc ils deviendront des Égyptiens. Donc c'est un ethnocide, c'est-à-dire il n'y a plus d'identité juive. Alors il y a des résistances, la résistance des femmes, il y a les sages-femmes qui disent non au Pharaon, la maman du petit bébé qui va naître, la sœur et la fille de Pharaon qui va sauver ce petit garçon. On peut dire que dans l'histoire juive, il y a toujours eu des tentatives de supprimer ce peuple, c'est un fait. Même s'il y a une volonté d'intégration, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a toujours des résistants que dans la tradition juive, on appelait des justes. Voilà. Il y a des enfants cachés, peut-être, vous connaissez des enfants cachés ou des descendants d'enfants cachés, dans le peuple juif, et ils ont été sauvés par des justes qui, pendant les rafles, etc., ont caché un enfant ou une famille. Bon. Et la sortie d'Égypte va marquer la naissance du peuple, le peuple d'Israël. C'est intéressant de voir que ce récit, qu'il soit réel ou qu'il soit construit ou des récits rapportés, peu importe, mais c'est un récit important sur le plan de la pensée parce que c'est un récit qui prône la liberté, freedom. Et c'est pas pour rien que les Noirs, en Amérique, lorsqu'ils étaient esclaves, eh bien, se sont identifiés, le peuple noir, c'était le peuple hébreu, let my people go, etc., les Negro spiritual, c'est devenu des gospels, mais d'abord les Negro spiritual, when Israel goes in Egypt, let my people go, etc. Donc, on reprend tout le récit de la sortie d'Égypte, et c'est le peuple noir qui est le peuple hébreu, en fait. Donc, cette proximité entre le peuple noir et le peuple hébreu, en tout cas, à cette époque-là. Voilà. Alors, je vous donne quelques repères rapides pour avancer. Alors, moins 1000, donc avant Jésus, avant la chrétienne, donc David. Alors, ce peuple, donc, il va rentrer en terre promise, la terre promise, et puis c'est David qui va unifier les tribus, les 12 tribus d'Israël, qui va faire de Jérusalem la capitale, Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça veut dire la crainte et la paix. Yerushalayim, Shalom. Donc David va... Alors à partir de David, d'après l'archéologie, on a des traces quand même. Voilà. Tout ce qui est avant, on n'a pas de traces, mais à partir de là, on peut dire quand même, on a des traces archéologiques, des récits, même d'autres cultures. Et son fils Salomon, Shlomo, eh bien, va construire le temple, donc à Jérusalem. Donc c'est à la fois la capitale politique, donc du royaume d'Israël, maintenant ça ne s'appelle plus Canaan, ça s'appelle le royaume d'Israël, et Salomon va construire le temple, donc à la fois Jérusalem comme capitale politique et capitale religieuse. C'est la ville sainte, Kodesh, et en arabe, Kots. Vous entendez, Kots, Kadesh, Kadesh, ou Kadesh, Kadosh, c'est la même racine. Donc ça veut dire la sainte, en fait. Et donc Salomon va construire le temple, qui unifie les tribus pendant les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois moments de la sortie d'Égypte. En moins 930, il y a un schisme entre le royaume du Nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël ou d'Éphraïm, qui est la Samarie aujourd'hui, et le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, Judée, Samarie. Là, simplement, donner des repères. Le royaume du Nord s'appelle aussi le royaume d'Israël, ou le royaume d'Éphraïm, parce que Éphraïm, c'est un des fils de Joseph, et le royaume du Sud, royaume de Juda. Royaume du Nord, 10 tribus, royaume du Sud, 2 tribus. Dont la principale est Juda. C'est pour ça que ça s'appelle le royaume de Juda, Yehuda. Mais il y a aussi la tribu de Benjamin et il y a les tribus de Lévi et de Cohen qui travaillent dans le temple. Une grande catastrophe va arriver en moins 722. Il faut savoir, l'histoire juive, c'est une histoire tragique, entrecoupée d'espérance. C'est comme ça. L'histoire juive est une histoire tragique, entrecoupée d'espérance. En moins 722, les Assyriens, et l'apostrophe assyrien, donc c'était, on va dire, l'Irak, partie de la Turquie, de la Syrie, grande puissance, vont, pour des raisons politiques, vont détruire le royaume du Nord. Le royaume 10 tribus sur 12 vont disparaître. C'est-à-dire le peuple juif aujourd'hui est un reliquat d'une catastrophe où 5 sixièmes du peuple a été détruit. Si on compare avec la Shoah, en nombre, c'est plus important. 5/6 a disparu. On parle des 10 tribus perdues. Alors, il y a des recherches aujourd'hui, on a trouvé des tribus perdues. Alors, en Afrique, en Inde, Beta Israël, jusqu'en Chine, même en Afghanistan, les Pashtuns seraient des descendants, ils ont des noms un peu à consonance hébraïque, ils ont des vêtements avec des franges rituelles. Mais récemment, d'ailleurs, je regardais aussi un kéfier. Je regardais bien un kéfier, je me suis acheté un kéfier pour voir. Eh bien, il y a des franges rituelles au bout. Je dis, c'est un talit, ça. Alors, on est encore plus frères, vous voyez. Bon, alors, donc, 10 tribus vont disparaître, et le royaume de Juda va se renforcer. Seulement, en moins 586, encore une tragédie, c'est la destruction du temple et du royaume de Juda. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les... Alors, à ce moment-là, on dit les Judéens, on ne dit pas les Juifs. Enfin, voilà, je vais vous donner ma définition. Judéen, c'est un citoyen de Judée, et un Juif, c'est un membre de la religion juive qui va naître après la destruction du deuxième temple. Il n'y a pas de Juifs à ce moment-là. Il y a des Hébreux, et en fonction de la tribu où on se trouve, on est des Judéens, des Benjaminites. Avant la destruction de moins 722, on était des Réouvénites, on était des Simonites, etc. En moins 586, le royaume de Juda est détruit par Nabucodonosor, et il n'y aura le retour à Jérusalem qu'en moins 500. Alors, là, on va voir un texte, qui est le texte du prophète Jérémie, Yirmiyahou. Trouve au chapitre 29 de son livre, et voilà, je vais le lire, vous irez avec moi. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie adressa de Jérusalem aux survivants. Ça veut dire Jérémie a été contemporain à la destruction du temple en 586, et il y a déjà une partie qui est déportée. Toute la population n'a pas été massacrée par les Babyloniens. Une partie, surtout à Jérusalem, ils ont été massacrés, mais une partie a été déportée. Et ils ont été installés. Au début, c'était une période difficile, et petit à petit, ils ont été intégrés dans la société babylonienne. Alors, Jérémie envoie une lettre. Et ainsi parle Adonai Tsevaot, c'est le Seigneur, avec les quatre lettres, Yud, Vehé, le Babel, Vehé, il était, il est, il sera, c'est le nom de Dieu. Quand on dit Elohim, c'est la divinité, mais quel est le nom, quel est ton nom, comme il veut dire, le nom c'est Adonai. Enfin, nous on lit Adonai, mais c'est Yahou, Yoré, Yehovah, hein, Heye, Asher, Heye. Bon, le nom qu'on ne prononce pas, sauf pour l'expliquer maintenant. Et ainsi parle Adonai Tsevaot, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, et il va donner un programme de citoyenneté. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Épousez des femmes, et mettez au monde fils et filles. Donnez des femmes à vos fils, des maris à vos filles, afin qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas, ne diminuez pas en nombre. Travaillez, ça c'est le premier point, ça veut dire pour la survie de l'identité d'Israël en exil. Soyez de bons citoyens. Construisez, bâtissez, mariez vos enfants, faites des fêtes, multipliez-vous. Bien sûr, avec la destruction, il y a une perte considérable de la population. Deuxième, ça c'est par rapport à la communauté en interne, en externe. Vous pourrez penser qu'on va cultiver le sentiment de vengeance. Et pas du tout. Travaillez aussi à la prospérité de la ville où je vous ai relégué et imploré Dieu en sa faveur. Car sa prospérité est le gage de votre prospérité. Soyez des bons citoyens. Pourquoi? Parce que en cultivant les bonnes relations avec le pays dans lequel vous êtes, en travaillant, en faisant fructifier l'économie, en ne cultivant pas l'esprit de vengeance, on a ici quelque chose qui prépare le serment sur la montagne, quand Jésus va dire « Aimez vos ennemis ». Ce sont les ennemis, les Babyloniens. Ils ont détruit le temple. Quel traumatisme! Eh bien, le prophète Jérémie, un petit peu en avant Jésus, dit « Aimez vos ennemis ». Voilà. Il ne faut pas cultiver la vengeance, parce qu'il n'y a pas de fin à la vengeance. Il faut cultiver la paix. Voilà. Et ensuite, quand Dieu se souviendra de vous, qu'il vous ramènera dans le pays, eh bien, vous reviendrez dans le pays, mais pour l'instant, soyez de bons citoyens. Donc nous avons ici un exemple concret d'un prophète qui demande d'être un citoyen modèle à l'intérieur de la société. On continue. Pendant cette période, incontestablement, il y a vous avez sans doute vu ou entendu en tout cas le chant des esclaves de Nabucco, de Verdi, hein, qui représente justement ce chant des déportés en Babylonie, qui ont la nostalgie de retourner à Sion. Alors Sion, mauvais sens aujourd'hui, mais c'est simplement le deuxième nom de Jérusalem. Sion, ça veut dire le signe, c'est-à-dire la montagne qui est plus élevée que les autres parce qu'il y a le temple. Donc c'est ça, le Sion, ça veut dire simplement le signe, vous voyez, Sion, signe, Sion, voilà. Et on a ce fameux « On the river of Babylon », vous vous rappelez ?« And remember Zion ». C'était un chant disco des années 80, si vous vous rappelez bien, « Bonnie M », voilà. Et en fait, c'était encore un « Negro Spiritual ». C'est-à-dire, les « Negro Spiritual » a repris cette nostalgie de retourner à Sion, les Juifs, les Judéens, voulait retourner à Sion, comme peut-être le peuple noir voulait retourner en Afrique. Ils voulaient retourner dans leur Sion, à eux, dans leur Sion à eux. Oui. Donc il y a à la fois ce désir d'être de bons citoyens, et en même temps cette nostalgie de la terre ancestrale. Deuxième exemple, où nous trouvons un modèle parallèle à celui de Joseph, mais qui va dater du 5e siècle, c'est le récit d'Esther. Alors Esther, c'est une jeune fille juive qui se trouve donc exilée, alors c'était la Babylonie, mais ensuite les Perses ont pris, donc l'Iran aujourd'hui a pris le dessus sur les Babyloniens, ils ont vaincu les Babyloniens, et à cette période-là, il y a un roi qui s'appelle Xerxès Ier. Alors historiquement, c'est difficile de trouver des preuves, mais on raconte que c'est une jeune fille qui s'appelait Esther, qui était élevé par son nom qui s'appelait Mordechai, et qui va être choisi comme la reine pour devenir la remplaçante de la reine qui avait été chassée. Et ce qu'on peut remarquer ici, que les deux héros, un s'appelle Esther, l'autre s'appelle Mordechai, or ce ne sont pas des noms d'origine juive, mais des noms perses, parce que Esther, c'est Ishtar, c'est Vénus, la reine, la déesse Vénus, et Mordechai, c'est Marduk. Ça veut dire que les héros de ce récit, qui sont des juifs, des judéens pieux, hein, ils portent le nom des divinités. C'est comme si vous avez un juif qui s'appelle Christian, ou une femme juive qui s'appelle Christine. Vous ne trouvez pas beaucoup de juifs qui s'appellent Christian, Christine. Hein. Eh bien, ils s'appellent Ishtar et Marduk. On pourrait penser qu'ils sont assimilés à la culture, c'est-à-dire qu'ils prennent même les noms, comme moi par exemple, je m'appelle Philippe, voilà, je m'appelle en hébreu, je m'appelle Binyamin. Mais mon état civil, si vous voulez, de citoyen, c'est Philippe. Vous voyez, parce que mes parents, je le dis comme ça, mes parents viennent de Tunisie, donc je suis un séfarade, un juif séfarade. Mes parents viennent de Tunisie, moi je suis né en France, et ils m'ont donné un nom civil, Philippe, et mon nom de bar mitzvah, de religieux, eh bien c'est Binyamin. Voilà. Eh bien ici, on voit que, un peu comme Joseph qui prend un nom égyptien, ici on avait pris un nom perse. Donc, toujours l'idée qu'on peut très bien s'assimiler culturellement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie son identité. La même chose avec le récit de Pharaon. Eh bien, là aussi, dès l'instant où il y a une volonté d'intégration, il y a le méchant, quelque sorte, qui apparaît, s'appelle Aman, et il veut... proposer une solution finale. Et il y a toujours un risque. C'est pour ça que je vous dis, l'histoire du peuple juif, elle est tragique. Il y a toujours un risque de disparition. Et Aman va essayer de supprimer tous les juifs des 127 provinces, mais grâce à Esther, voilà, c'est à ce moment-là, Esther va apparaître, elle va supplier le roi, elle dit en fait, Esther c'est mon nom civil, mais en fait je m'appelle Hadassa, comme l'hôpital Hadassa, qui a été peint par le peintre Chagall, voilà, à Jérusalem, et elle dit, voilà, sauve mon peuple, et finalement, le roi va lui accorder la délivrance, et donc, le projet d'Aman ne va pas se réaliser. Alors, vous avez ici petite Megillah, c'est un rouleau d'Esther qu'on va lire très prochainement dans les synagogues, voilà. Et, en fait, il y a, la même manière que dans le christianisme, on dit, il y a l'antéchrist, en quelque sorte, dans la Bible, il y a aussi l'anti-Israël, c'est-à-dire, chaque fois qu'on veut détruire Israël. On appelle Amalek. Ici, autour de la destruction du deuxième temple, donc il y a le retour. Alors, Cyrus le Grand, va autoriser les Juifs à revenir à Jérusalem pour construire le deuxième temple. Bon, Cyrus, c'est le roi perse, c'est l'Iran aujourd'hui. On aimerait qu'il y ait une bonne relation entre... Pourquoi l'Iran ne serait pas comme Cyrus Vionbaum? Allez dans votre terre ancestrale, on va trouver une solution de vivre ensemble. Bon, en tout cas, il va permettre la reconstruction de Jérusalem, du deuxième temple. En moins 64, la Judée va être occupée par les Romains. Entre-temps, il y a les Grecs, les Romains. Zéro, ben, c'est Jésus, Yeshua, en hébreu. Et plus 70, la destruction du deuxième temple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, il y a une diaspora. En fait, il y en a trois. On dit toujours qu'il y en a deux, mais en fait, on oublie le troisième. Parce qu'on dit Ashkenaz et Sépharad. Mais il y a aussi les Orientaux. Parce qu'il y avait des communautés juives dans tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Encore aujourd'hui, il y a une communauté juive à Téhéran, par exemple. Oui, ils ont... On a vu des films où ils allument la Hanoukia, la lumière de chandelier à 9 branches. Mais il y avait les communautés juives en Perse, le Talmud a été fait à Babylone, le Talmud de Babylone. En Syrie, à Alep, le Sefer Torah de référence, il vient de Syrie, Alep, de 928. Et Maïmonide, au XIIe siècle, dit c'est ce Sefer Torah de référence de Alep, Aram Tsova, aussi pour les spécialistes, eh bien c'est ce Sefer Torah tel qu'il est écrit, rédigé, c'est la référence de tous les scribes jusqu'aujourd'hui. Donc il y a ce qu'on appelle les Mizrahim. Les Mizrahim, c'est-à-dire les Orientaux. Mais bon, pour des questions politiques et régionales, on comprend qu'il n'y a plus beaucoup de Juifs, ni au Liban, ni en Syrie, ni en Irak, mais encore en Turquie aussi, oui. Et tout ça, ce sont les Mizrahim. Alors on reconnaît la différence par la musique, la manière dont on chante. Quand ils chantent, et vous entendez la musique des orientaux, des Mizrahim, vous ne savez pas si c'est le Coran ou si c'est les psaumes. Parce que les mêmes intonations, ça s'appelle ça les makam, ça veut dire les modes musicaux, et c'est les modes musicaux orientaux, avec le quart de ton. Vous connaissez sans doute avec Malouf, vous savez qui joue la trompette. Si vous entendez, vous connaissez Abin Malouf. Vous entendez la trompette. J'ai eu la chance de rencontrer son père, c'est lui qui a inventé la trompette au quart de ton. Parce que dans la musique orientale, il y a le quart de ton qui n'existe pas dans la musique occidentale, où il y a seulement le demi-ton. Do, ré, mi, voilà, etc. Et alors, ensuite, il y a les séfarades. Alors, c'est connu les séfarades. Les séfarades, ce sont les Espagnols, c'est-à-dire les Juifs, en fait, soit d'Espagne, soit du Proche-Orient, du Maghreb. Et Ashkenaz, c'est les Juifs occidentaux, et c'est-à-dire soit allemand, ashkenazi ça veut dire allemand, et on veut dire de France, d'Allemagne, d'Europe de l'Est, et ensuite aux États-Unis, la plupart, on peut reconnaître par le nom. Vous voyez, si par exemple il s'appelle Goldberg, vous voyez, ou Spielberg, voilà, c'est ashkenaz. Et séfarade, c'est plutôt des noms orientaux. Et je vous raconte une petite blague juive. Alors, la maîtresse rentre dans l'école et dit Belchitrit, présent. Benamou, présent. Benoliel, présent. Benoït, Benoît, madame. Voilà. Donc, les noms séfarades, ça peut être aussi des noms qui viennent d'Espagne. On entend des Berdugo. Il y a un rabbin ici qui était Berdugo. Voilà. Ou bien Caro, Yosef Caro, Cordovero. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Juifs, là où ils se trouvaient, ont accepté la citoyenneté du pays, et ils ont pris la culture, la cuisine, la musique, la langue, et même ils ont créé, des fois, des langues un peu mitigées, par exemple, le judéo quelque chose. Vous avez le judéo-arabe. Voilà. Moi, je ne sais pas le lire, mais mon grand-père, à son âme, eh bien, il lisait la Gadat Pessah, la sortie d'Égypte, en hébreu et en judéo-arabe. Mais on pouvait comprendre, quand on était petit, on comprenait encore le... Et il y a le judéo-espagnol, le judéo-allemand, le judéo-alsacien. Le judéo-alsacien. C'est de l'hébreu. Oui, même des fois dans certains films, des films en anglais, it's not kosher. En français, on dit c'est pas très catholique. Mais dans certains films, le policier fait it's not kosher. C'est pas très kasher cette affaire-là, ce que vous me racontez. Vous voyez ? Alors, bien encore une fois, là où les Juifs se sont trouvés, eh bien, ils ont, en quelque sorte, joué la citoyenneté. On va arriver au Talmud. Alors, le Talmud, lui-même, il va, donc, au IIIe siècle, il y a un rabbin qui s'appelle Shmuel, donc de Babylone, et qui va énoncer un principe qui est très important, parce que on va voir par la suite, c'est Dina de Malchuta, Dina. Din, c'est la loi. Din, c'est aussi des, ça veut dire la religion, et si c'est la loi. La loi du pays est la loi. C'est-à-dire que le culte est une affaire privée. Le Bet Din, c'est-à-dire le tribunal rabbinique, gère les affaires religieuses, c'est cachère, c'est pas cachère, des fois des divorces ou des mariages. Et la loi du pays gère les affaires sociales. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec votre voisin, vous n'allez pas aller au Bet Din, vous allez à la police ou vous allez au tribunal. Donc, en disant la loi du pays est la loi, on sépare en quelque sorte le culte privé et la vie sociale. Et ce principe était valable soit dans l'Empire chrétien, soit dans les pays musulmans, on disait la loi du pays est la loi, donc si c'est une loi musulmane, ben, on suit la loi musulmane, si c'est une loi chrétienne, il n'y avait pas encore séparation en Occident, eh bien on suit cette loi. Bien sûr, si c'était plus en quelque sorte un état de droit, une dictature, à ce moment-là on essayait de s'enfuir, comme Maïmonide, bon, il n'a pas pu rester en Espagne, il s'enfuit, mais vous voyez que ce principe, il est important parce que on va le retrouver plus tard, c'est-à-dire avec le grand Sanhédrin de Napoléon. Alors on passe directement en 1791. 1791, l'émancipation des Juifs, parce que jusqu'à présent les Juifs n'étaient pas considérés comme des citoyens, même s'ils avaient accepté la loi du pays, mais ils étaient considérés comme des étrangers. C'est, on appelait les Juifs exilés dans notre royaume. Voilà. Et donc ils n'avaient pas le statut de Français. 1791, c'est une grande révolution, justement, aussi pour les Juifs, et ça va donner l'israélitisme. Des Juifs de cette période, ils ne disent pas qu'ils sont Juifs. C'est comme Juif, ça avait un côté péjoratif, ah, Juif, sale Juif. Vous voyez, même encore aujourd'hui, sale Juif. Hein, alors, on disait, vous êtes israélite, monsieur, vous êtes israélite, madame, c'est plus doux, vous voyez, c'est moins agressif. Où les gens, ils pensent que si on va dire Juif, des fois, ça peut être agressif. On remarquera d'ailleurs que toutes les associations qui ont été créées avant la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours israélite. Le consistoire israélite de France. Vous voyez, même moi j'étais aumônier des scouts israélites de France, je l'ai créé en 1923. Par contre, toutes les associations qui étaient créées après-guerre, là, portaient le nom juif. Par exemple, le Fonds social juif unifié. Oui. Alors en 1807, Napoléon, il va demander aux juifs, est-ce que vous êtes des bons citoyens? Est-ce que vous défendrez la France? Est-ce que vous suivrez les lois du pays? Est-ce que si on fait la guerre contre les Prussiens et qu'en face il y a des Juifs, est-ce que vous allez défendre la France ou bien vous allez faire union avec le Juif d'en face qui porte l'habit prussien ou allemand et vous serez de mauvais Français? Il a réuni le Sanhédrin. Il a réuni 120 sages, il n'y avait pas 120 rabbins, donc des rabbins, mais aussi des nobles. Et la réponse, c'est ce qu'on a vu dans l'image précédente, la loi du pays est la loi. Ça veut dire, nous nous soumettons totalement à la loi française. Alors par exemple, on ne peut pas marier religieusement si on n'a pas le certificat de mariage civil. C'est interdit. Si un rabbin marie sans le certificat, il peut aller payer une amende, voire aller en prison. Aussi, l'enterrement. Avant, on enterrait sans cercueil. D'après la Bible, tu es poussière, tu retournes à la poussière, juste un linceul. Oui, mais la loi demande, à cause des feux follets, tout ça, des questions d'hygiène, il faut enterrer dans un cercueil. Bon, on accepte d'enterrer dans un cercueil, etc. Et si voter, oui, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, on va voter. Au point que la loi du pays devient, à ce moment-là, une mitzvah. Une mitzvah, ça veut dire un commandement religieux. Puisqu'on a un principe qui dit que la loi du pays, c'est la loi, être un bon citoyen, c'est un commandement de Dieu. Vous voyez, Dieu nous demande, à travers le prophète Jérémie, ou à travers la tradition, voilà le Talmud, être un bon citoyen, c'est être un bon serviteur de Dieu. Même quand je vais aller voter, ou quand je vais aller à la mairie faire un mariage civil avant le mariage religieux. Ça donne le consistoire israélite de France, on en a parlé tout à l'heure, et c'est Napoléon qui va structurer, il aimait bien les pyramides, donc grand rabbin de France, grand rabbin régionaux, rabbin locaux et officiants, et le lieu où on forme les rabbins, séminaire israélite de France. C'était, je crois, à Strasbourg, et ensuite, maintenant, c'est à Paris, où je fais mes études, dans le 5e arrondissement, et surtout, une grande fidélité à la République française. Mais comme il y a l'émancipation, en même temps, il va avoir une nouvelle perspective de pensée dans le judaïsme qu'on appelle la Haskala, ça veut dire la lumière des philosophes, et aussi les lumières juives, la Haskala, qui va donner différents courants. Alors là, on voit en quelque sorte que la communauté juive s'incline devant Napoléon, hein, voilà, pour dire « nous acceptons les lois du pays ». On continue. Alors, à partir de là, le judaïsme va devenir pluriel. C'est-à-dire le judaïsme du consistorial, le judaïsme assimilé, et le judaïsme consistorial, ce n'est pas le judaïsme de stricte observance aujourd'hui, c'était, on disait, juif à la maison et citoyen à l'extérieur. Vous voyez ? Par exemple, les familles Rothschild, vous voyez, un peu des repères comme ça. Il y avait des juifs assimilés, ils ont dit, on profite que maintenant on peut s'assimiler, même certains se sont convertis. Le petit-fils de Mendelssohn, qui était un rabbin, son petit-fils, qui a écrit la marche nuptiale, a été converti, mais parce que c'était difficile pour les juifs d'accéder à l'université. Alors, malheureusement, à cause de cette atmosphère négative, eh bien, il y en a qui se sont assimilés. Et ils ont disparu. Mais des fois, on retrouve les petits-enfants. J'ai connu une femme qui a fait son arbre généalogique, qui a remonté jusqu'à la Révolution française et qui a découvert qu'elle était juive et qu'elle voulait revenir au judaïsme. Alors, vous avez su le judaïsme réformé, c'est-à-dire qu'il veut adapter un petit peu la religion, parce qu'elle était un peu trop stricte par rapport à la religion talmudique. Les massortis, qu'on appelle aussi modernes orthodoxes, bon, c'est des différentes tendances. Les lituaniens, qui sont des talmudiques, alors très très strict observance. Les chassidim, ce sont des mystiques, voire des charismatiques, si vous voyez avec des chrétiens, charismatiques. Pour l'islam, ce serait plutôt des soufis, vous voyez, des soufis, des mystiques. Voilà. Et alors, vous pouvez avoir aujourd'hui des juifs a-religieux, voire anti-religieux. Bon. Et donc, ça forme ici, alors bon, vous voyez, Rabbi Jacob, j'ai pris parce que c'est un peu le symbole du chassidisme, mais on voit aussi une jeune fille bon, qui est à Jérusalem, sans doute dans un théâtre à côté de Jérusalem, voilà, elle fait la bat mitzvah. Alors, on ne fait pas ça dans les milieux orthodoxes, mais dans les milieux libéraux, la fille, elle lit dans la Torah, voilà, son papa, et il a les téphilines, voilà, et... Mais à chaque fois, dans tous ces cas de figure, c'est toujours une intégration plus ou moins marquée. Alors en effet, on verra par exemple que chez les chassidim ou les lituaniens, eux vont surligner la vie religieuse. Ah, ça pose problème, la vie religieuse. Parce qu'on a du mal avec des gens qui n'ont pas les mêmes habits que nous. C'est peut-être un manque d'ouverture, ça. On a le droit de s'habiller comme on veut, non ? Bon. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que ces juifs très très pieux, ils avaient peur de l'assimilation. Ils avaient peur de la Haskala. Ils avaient peur qu'on perde son identité juive. Alors comment ils ont fait? Ils ont surligné le vêtement. Donc la redingote, les papillotes, la barbe, le chapeau rond, voilà. Et en fait, on ne s'habillait pas comme ça. Maïmonide, il s'habillait, dans le monde musulman, il s'habille à la mode musulmane, si on peut dire. Voilà. Quand il écrit en arabe, quand il dit Dieu, il dit Allah, voilà. Et donc, il était totalement intégré, mais simplement en tant que juif, vous voyez. Mais on a eu peur, alors c'est pour ça qu'on voit ce signe un peu plus marqué du vêtement, que dans certains milieux, on va garder, donc les papillotes, etc. Mais ça, c'est une peur de l'assimilation. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'être. Mais, pratiquement, dans toutes les synagogues, en tout cas pour la France, puisque je parle pour la France, ici, nous avons la prière de la République. Alors voilà, là, il y a plusieurs versions de la prière. Tous les samedis, dans les synagogues consistoriales ou libérales, enfin dans les synagogues en général, voilà. Éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermi. Bien sûr, on est des croyants, donc on dit c'est Dieu qui décide de tout. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française, le peuple français. Donc vous voyez, et les fidèles répondent Amen. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte, notre pays, la République française, et bénis le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Mais en Angleterre, on remplace la France par l'Angleterre. Au Maroc, les juifs bénissent le roi du Maroc. voyez, à peu près plus ou moins le même texte, après dans la langue du pays. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. S'il n'y a pas d'ordre et justice dans le pays, c'est la révolution. Hein. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Voilà, les fidèles répondent Amen. Accueille favorablement nos voeux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, au Seigneur, notre Créateur, notre Libérateur. Ben, ça, c'est la prière qui aussi montre comment on introduit dans le culte la citoyenneté comme une valeur religieuse. Une valeur religieuse d'être un bon citoyen. Une autre période noire, histoire tragique, ben Vichy, parce que à partir du 3 octobre 1940, à ce moment-là, les Juifs perdent leur statut. Ils ne sont plus des citoyens. Et même quand ils vont essayer de défendre, ils ont, certains, une photo célèbre, on voit un homme qui a perdu une jambe et qui crie au Maréchal Pétain, j'ai défendu la France en 14-18, j'ai donné ma jambe pour la France, ça n'empêchera pas de porter l'étoile et d'être déporté. Bon. Et c'est après la guerre que petit à petit ce statut va disparaître, mais il y a des périodes où les Juifs n'étaient plus citoyens, ils ne pouvaient plus être citoyens, et là, il fallait s'enfuir, parce que sinon c'était la mort, c'était les rafles. Et c'est là qu'on a parlé tout à l'heure des justes de France en particulier. Je vois qu'il y a quelques musulmans, musulmanes aussi, oui. La mosquée de Paris a sauvé aussi des juifs, il faut le dire, des chrétiens, des musulmans, c'est-à-dire les hommes qui avaient, ou des femmes, qui avaient cette conscience que la vie c'est plus important que tout, voilà, que servir Dieu c'est servir la vie. Ça, on est toujours reconnaissant. Et à Jérusalem, il y a des arbres qui portent le nom de tous ces justes, ces hommes et ces femmes. Même des fois, ils ont sauvé une personne, mais on dit qu'ils sauvent une vie, sauvent le monde entier. Alors, je voudrais terminer, après le 7 octobre, même sans rentrer dans un débat, mais simplement, quelle perspective de citoyenneté pour les Juifs aujourd'hui? Parce que les communautés juives de France, bon déjà on était 600 000 il y a quelques années, peut-être il y a une vingtaine d'années, maintenant on est, la communauté juive de France est autour de 400 000, donc il y a 200 000. Les communautés de province n'arrivent pas à attirer de la jeunesse, parce qu'il n'y a pas forcément d'université, donc c'est uniquement dans les grandes villes, bon, Paris, Marseille, Bordeaux, Montpellier, il y a de la jeunesse, mais les communautés ont du mal. Ouais. Si c'est vieillissant et qu'il n'y a pas du sang neuf, qu'est-ce qui va arriver de ces communautés? Bien sûr, il y a des problèmes d'antisémitisme, on ne peut pas le cacher. Donc il y a des familles qui disent, je ne peux plus mettre mon enfant, même dans l'école juive, c'est difficile, il faut traverser la sécurité. Bon, il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, il y a beaucoup de juifs qui veulent faire l'Aliya aussi. Donc la question de la citoyenneté, elle se pose un peu différemment aujourd'hui. Vous voyez, mais peut-être que c'est la période de la peur, on ne sait pas ce que ça va donner plus tard, et donc il y en a qui décident d'aller ailleurs, alors soit aux États-Unis, soit en Israël, on appelle ça la Aliya, monte en Israël. Bon. Il faut savoir que le nombre de juifs est à peu près stable, 15 millions de juifs dans le monde, hein, et aujourd'hui on considère qu'il y a 9 millions en Israël. Voilà le reste, la première communauté c'est les États-Unis, et la France c'est la première communauté juive d'Europe. Mais aussi, la citoyenneté, ça pose la question, l'avenir de l'État d'Israël. Est-ce que l'État d'Israël va durer ou est-ce qu'il va disparaître? Bon, je le dis froidement, est-ce qu'il va durer ou pas? Il y a une bombe qui pourrait tout faire sauter aussi, hein, dans le contexte actuel. Bon, alors, la paix. La paix, et là je vais arriver, c'est peut-être ça le projet de citoyenneté pour le monde de demain. C'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté, c'est l'éducation au vivre ensemble. On voit bien, nous on est d'une certaine génération, on est des grands-parents, bon, on voit le monde changer, quoi. C'est plus le monde des années 70-80. Maintenant il y a l'Internet, on paraît qu'il va y avoir des humanoïdes. Monsieur Elon Musk veut nous faire des humanoïdes, on va marcher avec des robots. On n'est plus dans le... Non mais on pense que c'est du délire, mais peut-être ça va arriver ça. L'intelligence artificielle, la surintelligence artificielle. Alors, je me dis, peut-être que, bien sûr, ça dépend aussi de nous, mais je pense que nous sommes des bons citoyens les uns et les autres ici, dans cette association, et c'est à quelles conditions nous serons des bons citoyens, une éducation à la paix, une éducation au pardon. Ça peut être avec nos frères chrétiens, hein, on peut aussi arriver, pardon, ça veut dire oui, on s'est fait du mal les uns les autres, ben, si on se pardonnait, tu recommences à zéro. Voilà. Et on enseigne plutôt à nos enfants, les uns avec l'autre. Vous voyez ? Peut-être une critique des religions, non pas pour les abolir, mais justement pour leur donner voilà, cette dimension de l'humanisme aussi, qui permet de vivre les uns avec les autres. Et puis, l'espérance d'un monde à partage. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'elle est signifiante. Voilà, bon, évidemment, j'aurais pu prendre d'autres, mais comme on est dans le contexte, ben, voilà ce que je voulais vous dire, cher Sani. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Et je vous remercie de votre attention et je vous laisserai la parole.